Bienvenue chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Louis XIV, grand séducteur, aima les plus jolies femmes de sa cour, qui le lui rendirent bien. Bel homme, courtois, un charme fou, intelligent, belle prestance, élégant, entreprenant, le roi avait toutes les qualités aux yeux énamourés de ces dames de cœur. Thierry Sarment les raconte avec talent et ses propos sont recueillis pour Le Figaro par Jean Sévilla. La première de toutes ces dames, son premier amour, Marie Mancini, nièce du cardinal. En 1658, gravement malade, Louis XIV reste plusieurs jours entre la vie et la mort. Une jeune fille de 21 ans, d'un an son aînée, en est bouleversée. « Elle se tua de pleurer, » dira d'elle la grande mademoiselle cousine du monarque. Cette jeune fille, Marie Mancini, est la nièce de Mazarin. Il l'a fait venir d'Italie, enfant, avec ses frères et sœurs. Une fois rétablie, touchée par l'émotion qu'elle avait manifestée, Louis XIV tombe amoureux d'elle. Il s'était déjà brièvement intéressé à sa sœur Olympe. Marie sera son premier grand amour. Elle n'est pas très belle, mais elle est cultivée et fait lire au roi des romans et des vers. Devenue le point d'attraction des fêtes qu'il organise, elle se prend à rêver mariage avec lui, rêve réciproque. Mais Mazarin, au même moment, négocie avec Madrid âprement une union du jeune souverain avec Marie-Thérèse d'Autriche, la fille du roi d'Espagne. Bientôt, Marie Mancini doit quitter la cour, au grand désespoir de Louis XIV. « Vous êtes le maître et vous pleurez », lui aurait-elle dit. La jeune fille gagne La Rochelle, puis Brouage. Louis XIV, toutefois, ne parvient pas à l'oublier. Il lui écrit de longues missives amoureuses. Alors Mazarin, appuyé par la reine-mère, Anne d'Autriche, tonne, expliquant au monarque que les rois se doivent à leur royaume et non à leur passion, et qu'aucun obstacle ne doit se dresser devant le mariage espagnol. Avec le temps, la flamme du roi s'apaisera. En 1661, un an après le mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autriche, la nièce de Mazarin acceptera d'épouser le prince Colonna, union qui s'avérera désastreuse. Marie Mancini mourra en 1715, l'année de la mort du roi, après une vie d'errance à travers l'Europe, sans jamais avoir revu Louis XIV. sa reine vertueuse, qu'il respectera et honorera toujours. Épousée à Saint-Jean-de-Luz en 1660, Marie-Thérèse d'Espagne, fille du roi Philippe IV, est doublement la cousine germaine de Louis XIV. Petite, dotée de grosses joues et ne parlant pas le français, elle n'a rien pour séduire. Homme de devoir, Louis XIV fait néanmoins le nécessaire. Il honore sa femme, se montre galant avec elle en public et attentionné dans l'intimité. Mais très vite, épris d'éclat et assoiffé de beauté féminine, il regarde ailleurs. Marie-Thérèse, elle, aime son mari, profondément et exclusivement parce qu'elle l'admire. Elle lui donnera 6 enfants, dont 5, hélas, mourront en bas âge. Une épreuve que le roi et la reine vivront ensemble dans la douleur. Marie-Thérèse, timide, dansant mal, n'ayant qu'une conversation très limitée, ne s'intéressant même pas à la politique, n'avait rien pour briller à la cour. Elle vivra donc repliée sur elle-même, dans le cercle de ses dames d'honneur et de ses femmes de chambre espagnoles. Douce, pieuse et charitable, elle passera toutefois une grande partie de sa vie à prier, à visiter les hôpitaux, à trouver des subsides pour les pauvres. Mademoiselle de la Vallière, Madame de Montespan, Mademoiselle de Fontanges, Madame de Maintenon et tant d'autres. La reine aura dû les supporter toutes. Parfois, dans la fureur, « Cette poutre me fera mourir » dira-t-elle de la Montespan. Un jour de 1683, on lui découvrit une maladie. Au 3e jour, alors qu'elle délirait de fièvre et qu'on allait quérir le Saint-Sacrement pour l'aider à passer dans l'autre monde, on l'entendit murmurer « Depuis que je suis reine, je n'ai eu qu'un seul jour heureux. » Elle rendit l'âme en présence du roi, de son fils et de toute la famille royale. « C'est le premier chagrin qu'elle m'ait causé, » dira Louis XIV. Puis, il y eut Mademoiselle de la Vallière, qui eut 4 enfants du roi et que celui-ci imposa à la cour de Versailles. Après la mort de Mazarin au printemps 1661, Louis XIV gouverne seul. Au même moment, son frère Philippe, duc d'Orléans, épouse la délicieuse Henriette d'Angleterre. Mariage politique qui masque les penchants homosexuels du frère du roi. Louis XIV, à l'inverse, trouve sa belle-sœur très à son goût, au point que certains courtisans soupçonnent quelque chose. Pour faire diversion, le monarque s'intéresse à une dame d'honneur de sa belle-sœur, une jeune fille de 17 ans, Louise de la Vallière. On en fait un chandelier. Pris à son propre jeu, il en tombe cependant amoureux et dès l'été 1661 en fait sa maîtresse. Douce beauté timide, Louise cherche la discrétion. Mais la reine mère, à qui rien n'échappe, découvre la liaison de son fils. Elle le persuade d'éviter le scandale et de ménager la reine qui est enceinte. En 1663, Louise de la Vallière, installée près de Versailles, attend à son tour un enfant. C'est Colbert qui est chargé de veiller sur la mère et bientôt sur l'enfant. La favorite accouchera d'un fils, le premier des quatre enfants qu'elle aura du roi, dont deux seulement survivront. Peu à peu, la passion est la plus forte. Louis XIV ne cache plus sa maîtresse. Tout en rejoignant la reine toutes les nuits dans ses appartements, il finit par imposer la présence de Mademoiselle de la Vallière à la cour. Il a 26 ans et promet à sa femme qu'il sera un mari sage quand il en aura 30. En attendant, il légitime les enfants qu'il a eus avec Louise de la Vallière, Mademoiselle de Blois et le comte de Vermandois. En 1666, la mort d'Anne d'Autriche le libère des reproches maternels. Dès 1667, cependant, Louise est délaissée. Mais Louis XIV tient à ce qu'elle reste à la cour. C'est qu'il veut dissimuler sa nouvelle liaison avec la brillante marquise de Montespan, infligeant dorénavant deux maîtresses à la reine. Louise, saisie de remords, se retire au couvent de Chaillot. Mais Colbert, mandaté par le roi, la force à revenir. En 1674, Louis XIV accepte enfin son départ. Avant de faire ses adieux, Mademoiselle de la Vallière se prosterne devant la reine, implorant son pardon. Elle vivra cloîtrée 36 années au couvent des Carmélites de Paris, sous le nom de Louise de la Miséricorde. Et le roi vécut un an de passion avec Mademoiselle de Fontanges. Introduite à la cour au début de 1679 comme fille d'honneur de la princesse Palatine, Mademoiselle de Fontanges est âgée de 17 ans. Cheveux châtain clair, yeux gris-bleu, sa beauté séduit immédiatement Louis XIV. Le roi a 41 ans, sa relation avec Madame de Montespan se distend et aucune femme ne lui a jamais résisté. Arrive ce qui doit arriver. Pendant plusieurs semaines, la liaison est tenue secrète jusqu'à ce que le monarque, un matin, montre Mademoiselle de Fontanges à la messe, aux côtés de la reine et de la favorite officielle. De colère, la Montespan fait pénétrer les ours apprivoisés dans l'appartement préparé à Saint-Germain pour sa rivale, afin qu'ils détruisent tout. Lors d'une promenade à cheval à Fontainebleau, la jeune favorite ramène à l'avant ses cheveux dénoués par une branche. Coiffure qui plaît au roi et lance ainsi la mode à la Fontanges. Dès l'automne 1679, cependant, Louis XIV commence à se lasser d'elle à cause de son manque d'esprit, ce que nous nommerions son manque de culture. En janvier 1680, la jeune femme met au monde un garçon mort-né, accouchement dont elle ne se remettra pas. « Blessée dans le service », dira méchamment Madame de Sévigné. En avril 1680, en guise de cadeau d'adieu, le roi la fait duchesse de Fontanges. Retirée à l'abbaye de Chelles, où Louis XIV lui rend visite, elle meurt à l'abbaye de Port-Royal de Paris en 1681, à l'âge de 20 ans. Certains accuseront, peut-être injustement, Madame de Montespan de l'avoir faite empoisonner. Thierry Sarment, conservateur en chef au musée Carnavalet, se penche aussi sur la belle Madame de Montespan. Le Figaro magazine. Madame de Montespan était réputée pour sa beauté autant que pour son esprit. Est-ce pour cette raison qu'elle est restée pendant une dizaine d'années la favorite de Louis XIV ? Thierry Sarment. Madame de Montespan était effectivement, suivant l'expression de Madame de Sévigné, une triomphante beauté à faire admirer à tous les ambassadeurs. Et également réputée pour son esprit mordant, le fameux esprit des Mortemart. Et justement, il ne faut pas négliger le côté Mortemart de la question. Issue d'un des plus anciens lignages de France, les Rochechouarts de Mortemart, Madame de Montespan était pour Louis XIV une conquête prestigieuse qui flattait ses instincts aristocratiques. Le roi a eu 7 enfants avec Madame de Montespan, dont 4 seulement atteignirent l'âge adulte. Quel rapport Louis XIV avait-il avec eux ? Louis XIV a témoigné plus d'affection pour ses enfants de l'amour que pour sa postérité légitime. Il n'a eu de cesse de les élever dans la hiérarchie nobiliaire et de les couvrir de charges et de faveurs. Il en vint à conférer au duc du Maine et au comte de Toulouse le rang de prince du sang et à les déclarer successibles à la couronne contre toutes les traditions dynastiques. Ses enfants, avec lesquels Madame de Montespan semble avoir entretenu des relations assez distantes, furent en fait la progéniture de substitution du roi et de Madame de Maintenon. Comment est intervenue sa disgrâce et comment a-t-elle fini sa vie ? La disgrâce de Madame de Montespan est d'ordinaire associée à l'affaire des poisons. Durant l'enquête, son nom apparut de façon très compromettante, car il semble qu'elle ait fait absorber au roi des philtres d'amour à la composition plus ragoûtante. En fait, autant que cette affaire, c'est le temps qui a provoqué sa disgrâce, sa beauté diminuée, son caractère s'aigrissait. Louis XIV, en vieillissant, devenait moins patient, et Madame de Maintenon, douce, attentive, insinuante, a peu à peu pris la place de son ancienne protectrice. Madame de Montespan ne se retira définitivement de la cour qu'en 1691. Menant une vie de dévotion apparente, elle ne cessa jamais d'espérer un retour en grâce qui suivrait la mort de sa rivale, plus âgée d'elle, de 5 ans. Elle mourut en 1707, durant une cure à Bourbon-l'Archambault. « lointaine de mon époux, par son frère, un garnement, disait ma belle-mère, dont la mère était née Madeleine Augier de Maintenon. Madame de Maintenon, la dernière épouse du roi et son dernier amour, raconté par Alexandre Maral, conservateur en chef au château de Versailles. Le Figaro Magazine. L'ascension de Madame de Maintenon, veuve d'un poète devenu favorite royale, ne contrevient-elle pas à toutes les règles de la cour de Louis XIV ? Alexandre Maral. En effet, Madame de Maintenon, née Françoise d'Aubigné, est d'une petite noblesse, pauvre et déclassée. Au moment où elle naît, son père est en prison, à Niort. Petit à petit, par son éducation, par son premier mariage, par ses relations, par sa chance aussi, elle est admise à fréquenter les grandes ce monde, puis la cour et le roi. Ce dernier, le plus grand roi de l'Europe, l'épouse en 1683. C'est là un destin tout à fait exceptionnel, surtout dans la France du XVIIe siècle, où les rois n'épousent les bergères que dans les contes. Était-elle, comme on l'a dit, une ambitieuse mue par un dessein politique, ou était-ce une légende ? Si Madame de Maintenon n'a pas programmé son parcours, elle n'en a manqué aucune des étapes. Elle s'est trouvée à la cour au bon moment, c'est-à-dire lorsque Louis XIV a voulu remettre de l'ordre dans sa vie, et elle a su accompagner le souverain dans cet effort de conversion. Devenue l'épouse du roi, elle a continué à le soutenir dans ses orientations politiques et religieuses. La révocation de l'édit de Nantes ne peut lui être reprochée. C'est une mesure royale, point d'aboutissement d'une politique qui n'avait pas attendu Madame de Maintenon pour se mettre en place. Pourquoi ce mystère autour du mariage morganatique de Louis XIV et de Madame de Maintenon ? Un mariage aussi inégal ne pouvait être déclaré. Il n'était pas question que Madame de Maintenon fût reine. Ce fut donc un mariage secret, dont on ne connaît même pas précisément la date. Il est probable qu'il ait été célébré à Versailles au retour de la cour de Fontainebleau, c'est-à-dire le 9 octobre 1683. Mais les contemporains de Louis XIV se doutaient bien qu'ils étaient unis par des liens sacrés, ne serait-ce que parce que le roi se rendait quotidiennement chez elle et quand, dans le même temps, il accomplissait scrupuleusement ses devoirs religieux. Même le pape n'a pas hésité à écrire officiellement à Madame de Maintenon. Marie-France Guimard-Roche vous retrouvera pour une nouvelle émission de Bienvenue chez le roi, enregistrée et réalisée par Pierre Écart dans les studios d'Urocas de Radio Grand Ciel.